spirituelle et les enjeux contemporains. Voilà, donc on te laisse la parole. Merci.
Merci, bonjour à toutes et tous, à chacune et chacun. Vous m'entendez bien? Bon, très bien. Donc voilà, grande joie d'être avec vous aujourd'hui. Merci à Anne-Sophie et à toute l'équipe de cette invitation pour cette journée. Oui.
Alors,
trop fort.
C'est bon, tu peux poursuivre aussi.
Voilà. Donc pour cette journée Église verte des Yvelines, je suis très, voilà, très, très heureux de pouvoir passer ce moment avec vous et puis d'apporter ma petite contribution à cette journée qui promet d'être très riche. Merci aussi de l'invitation à, voilà, quelques propos sur ce thème très actuel de l'espérance en lien avec l'écologie en particulier, on pourrait dire plus largement avec la question de l'état de la planète et des évolutions diverses. Et c'est vrai qu'on peut dire que la question de l'espérance et de notre capacité d'espérer est brûlante et d'une actualité absolument vivante aujourd'hui. Alors, c'est une question immense. Je ne vais pas vous donner de recette. Voilà, très justement, je vais m'inscrire en fait dans en résonance avec ce qui vient de vous être partagé dans ce moment de prière et de petite prédication. Et puis, je précise que, bon, voilà, c'est vraiment des pistes hein, qui seront évidemment pas exhaustives. En 45 minutes, on pourra simplement évoquer un certain nombre d'éléments. Je vais vous donner plutôt comme ça des repères, des impulsions. Et puis ensuite, ça sera bien évidemment à vous de faire votre miel de tout ça, personnellement, collectivement, en groupe. Et vraiment, soyez dans, enfin, ma perspective, c'est que ce que je partage, c'est pas des vérités, mais c'est des propositions. Alors peut-être pour commencer, quelques petits éléments de définition. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'espérance? Comment comprendre l'espérance? Jacques Ellul, voilà, une grande figure qui a beaucoup réfléchi, chrétienne, qui a beaucoup réfléchi sur l'espérance, disait que c'était le centre rayonnant de la vie chrétienne. Donc, comment comprendre ce terme? Je suis sûr que si on faisait un petit sondage dans la salle, eh bien, nous aurions une quantité de définitions en fonction du vécu, en fonction des sensibilités. Alors, pour moi, j'ai pas envie de donner une définition qui risquerait de fixer d'une certaine manière ou d'objectiver l'espérance, parce qu'il y a pour moi dans l'espérance fondamentalement une dimension de mystère. C'est très très proche en cela de la réalité divine, c'est une dimension de mystère et qui est au-delà d'une certaine manière de tout ce qu'on peut en dire et qui n'est certainement pas réductible à un concept. Donc mystère plutôt que concept. Peut-être quand même quelques éléments sur comment personnellement, je la perçois, évidemment en lien avec la tradition biblique, avec la tradition chrétienne. Alors, le pape François, quand il parle de l'espérance, là j'ai relu récemment un texte, il en parle comme d'un don et d'une tâche. Alors j'aime bien ça, oui, alors je pense que l'espérance est un don, on pourrait même dire que c'est une grâce. Cette grâce, elle est déjà là, elle est donnée. Et puis, c'est une tâche parce que finalement, cette tâche, ça consiste à nous ouvrir à ce don, à accueillir ce don, à le recevoir pour pouvoir ensuite voir ce qu'on peut en faire. Donc, un don et une tâche. Vous avez des auteurs qui, et là, je pense à Corinne Pelluchon, qui est une philosophe, qui a écrit un très beau livre sur l'espérance, mais aussi qui, elle, en parle comme une vertu. Je vais revenir sur cette notion de vertu un peu plus tard. Et puis, vous avez Jürgen Moltmann, grand théologien, voilà, protestant, qui en parle comme d'une promesse. Voilà. Le mot promesse a d'ailleurs été déjà évoqué dans la partie introductive de cette journée. Donc, à la fois une promesse et une vertu. Mais pour moi, je dirais que l'espérance, ça a beaucoup à voir avec une dynamique, avec un élan, avec un souffle. Vraiment, c'est l'espérance, c'est ce qui va nous donner l'élan et le souffle et la force pour nous mettre en mouvement, pour aller de l'avant, pour avancer et pour nous engager. Alors voilà, en l'occurrence, dans cette grande transition écologique et sociale. Voilà, donc dynamique, élan, souffle. Et puis peut-être un quatrième élément, c'est la dimension de sens. Et la dimension de sens, et là j'aime beaucoup cette parole du grand dissident tchèque Václav Havel, qui disait: l'espérance, ce n'est pas la certitude que tout ira mieux demain, mais c'est la conviction que ce que je fais a du sens. Et je crois que l'espérance est profondément une source de sens. Donc un don, une tâche, une promesse, une vertu, une dynamique, un élan et une source de sens. Et alors, pour terminer sur cet aspect de définition, peut-être ce que l'espérance pour moi n'est pas. Alors d'abord, elle n'est pas à confondre avec l'espoir, ni d'ailleurs avec l'optimisme. Je pense qu'il faut faire très attention, en tout cas pour moi, ne pas voir dans l'espérance une forme de projection dans un futur hypothétique. Mais l'espérance est bien quelque chose qui est certes à avoir avec l'avenir, mais qui se vit ici et maintenant, aujourd'hui, dans le présent. Cet avenir, cet advenir, à laquelle nous avons à ouvrir, se joue ici et maintenant, dans le présent. Le deuxième point important, c'est que parfois l'espérance, voilà, c'est un peu, on est dans une forme d'attente un petit peu passive. C'est quelque chose qui tomberait du ciel finalement et qui, au bout du compte, résoudrait tout. Eh bien, je reviens à cette notion de dynamique. Pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de passif, c'est quelque chose d'actif, l'espérance. C'est une dynamique de l'être. Jürgen Moltmann parle même de l'espérance combative et transformative. Donc, il y a une puissance de transformation et qui donc demande un engagement. Et puis, le dernier point, c'est que parfois, l'espérance, selon comment elle est perçue, peut être vécue comme une forme d'assurance un petit peu confortable, où finalement tout est dans les mains de Dieu, et puis voilà, tout finira bien par se résoudre, etc. Et moi je pense qu'au contraire, je pense que l'espérance n'a rien d'une assurance confortable, même si évidemment ça nourrit notre foi, ça nourrit notre confiance, mais l'espérance nous invite à, au fond, dans cet engagement aussi, à prendre des risques. Jacques Ellul disait bousculer la fermeture du monde, c'est-à-dire tout ce qui arrête, tout ce qui fixe, tout ce qui enferme. Voilà encore quelques éléments de définition plutôt du côté de ce qu'elle n'est pas. Alors pour moi, et pour faire le lien avec le thème de la journée, eh bien l'espérance, elle est vraiment profondément liée à cette conversion écologique à laquelle le pape François et l'Église verte nous appellent. Elle est vraiment pour moi à la fois le moteur, je dirais, et le fruit de cette métanoïa, conversion, voilà, qui traduit métanoïa, qui est cette métanoïa, c'est-à-dire ce retournement de tout l'être, cette transformation profonde qui notamment nous amène à une nouvelle manière de voir, et donc de vivre et d'être, une nouvelle manière de voir, c'est-à-dire dans une autre lumière, qui n'est pas que la lumière des actualités ou de l'information, mais qu'est la lumière en particulier de l'esprit. Donc vraiment l'espérance pour moi, elle est vraiment à la fois le moteur et le fruit de cette métanoïa, de cette conversion écologique qu'il faut vraiment voir comme un processus de transformation. Et en lien avec ce processus de transformation, j'avais envie de vous, en fait, voilà, partager comme ça, je dirais, quatre composantes de ce processus de transformation qui évidemment ne sont pas exhaustives, et qui sont profondément interreliées. Donc, par la force des choses, je vais les présenter les unes après les autres, mais en réalité, il faut les voir comme une forme de spirale, hein. C'est une dynamique. C'est pas quelque chose qui est causal et consécutif. Et ces quatre éléments, c'est d'une part la lucidité, l'importance de la lucidité, avec, on le verra, dans la lucidité, ce que moi j'aime bien appeler le compostage des émotions. La deuxième composante, c'est le changement d'imaginaire, changer notre imaginaire, changer l'histoire dans laquelle nous sommes, souvent, ou souvent entraînés en particulier par l'actualité. Troisième élément, c'est la reliance profonde au vivant, à la nature, à la création. Et la quatrième composante, c'est l'action et l'engagement. Voilà, donc je vais reprendre ces quatre points que je vais, voilà, sur lesquels je vais vous donner un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'éclairages. Le premier point, la lucidité. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains de vous connaissent, c'est une formule qu'on retrouve assez régulièrement aussi dans les discours politiques. C'est une formule assez célèbre d'un communiste, écrivain communiste italien qui s'appelle Antonio Gramsci, Gramsci, et qui dit dans cette phrase, voilà, souvent citée, « Il faut allier le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté. » Alors moi, je n'aime pas trop cette phrase en réalité, et je la transformerai en disant qu'il faut allier le courage de la lucidité à la grâce de l'espérance. Allier le courage de la lucidité à la grâce de l'espérance. Et allier parce qu'en réalité, on a besoin des deux. Je pense que la lucidité sans espérance, eh bien, elle peut être franchement désespérante. Et l'espérance sans lucidité, pardonnez-moi l'expression, ça peut parfois devenir un peu gnangnan. Donc on a vraiment besoin des deux. Comment on va articuler les deux? Alors, la lucidité, étymologiquement, moi j'aime beaucoup travailler avec l'étymologie, dans lucidité vous avez lux, vous avez lucidus, donc lux, la lumière, lucidus, voilà, quelque chose, donc c'est vraiment la lucidité, c'est voir clairement, c'est la clarté de vision. Alors clarté de vision sur la gravité de la situation, alors là je ne vais pas vous faire évidemment un tableau, en particulier des problèmes écologiques, hein, érosion de la biodiversité, les dérèglements climatiques, épuisement des ressources naturelles, inégalités croissantes, etc., etc., sans tout ce qu'on est en train de vivre depuis plusieurs semaines, en particulier avec l'arrivée de Trump au pouvoir, les populismes, la mise en question de la démocratie, etc., etc. Bon, avoir une vision claire de tout ça, donc la gravité de la situation, de son urgence et de la responsabilité de l'être humain par rapport à tout ça. Et là, je vous invite vraiment à relire et méditer l'encyclique Laudato Si, dont on va fêter les 10 ans cette année. Le pape François met vraiment beaucoup l'accent sur cette responsabilité humaine. Et il met aussi beaucoup l'accent sur cette dimension de lucidité, c'est-à-dire que pour pouvoir agir à la hauteur des enjeux, il faut oser regarder en face la situation. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il commence par une description de l'état de la planète en se référant en particulier aux apports de la science, parce que c'est ce qui va permettre justement de mieux écouter la clameur, les clameurs de la terre et les clameurs des pauvres. Et Bernanos, Georges Bernanos, voilà, grand écrivain catholique qui a beaucoup écrit sur l'espérance, eh bien, c'est en fait, ça rejoint ce qu'il disait quand il disait que l'espérance, c'est un parcours à travers la vérité. Et donc, c'est vraiment un parcours à travers ce « oser regarder en face la réalité de la situation ». Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas ne pas être surpris par le décalage ou le hiatus qui existe souvent entre d'un côté toute l'information que nous avons, alors à la fois l'état de la planète, mais surtout aussi toute l'information abondante, voire surabondante, que nous avons sur tous ces problèmes, et de l'autre côté, l'insuffisance des changements de comportement. Sans parler de l'insuffisance des mesures politiques, ça ce serait encore un tout autre sujet. Mais on va y rester à l'insuffisance des comportements. Donc vraiment, il y a un décalage. Alors, en particulier, des courants qu'on appelle l'éco-psychologie, qui font justement les liens profonds entre l'écologie et la psyché, la psychologie, ont vraiment réfléchi beaucoup sur ce hiatus, sur ce décalage. Alors, il y a toute une série de raisons là autour, alors que je ne vais pas pouvoir mentionner ici, mais un premier point, c'est notamment, parce que ça a à voir avec ce que je vous dirai tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a une forme quand même dans nos sociétés, dans le monde occidental, et c'est le fruit de toute une histoire civilisationnelle, il y a une forme de déconnexion, de séparation entre l'être humain et le reste de la création, entre l'être humain et la nature, le reste du vivant, ce qui fait que, au fond, la création, autre qu'humaine, non humaine, est vécue comme extérieure à nous, comme quelque chose qui serait en dehors de nous. C'est d'ailleurs la notion d'environnement le dit bien. Non seulement nous sommes au centre, mais c'est quelque chose qui nous environne. Et en fait, voilà, c'est comme si nous n'étions d'une certaine manière peut-être pas complètement concernés par ce qui arrive à cette création et à cette terre et qui nous rend peut-être un peu sourds justement à ces clameurs de la terre et aussi d'ailleurs des pauvres. Alors là, l'enjeu, ce sera évidemment de sortir de ça, et ça va passer par cette reconnexion profonde au vivant dont j'avais parlé tout à l'heure pour comprendre à quel point à la fois nous sommes partie intégrante de cette création, mais que cette création vit en nous dans une relation d'interdépendance profonde. Je vais revenir là-dessus. Mais maintenant, j'aimerais mettre l'accent sur un autre point qui a pour moi à voir aussi avec une dimension spirituelle, c'est que très souvent, l'être humain, chacun se reconnaîtra ou pas, mais l'être humain est comme dans une forme de division intérieure. Et une division, j'aurais envie de dire, entre sa tête, entre la tête et le cœur. Entre la tête et le cœur. René Char, le grand poète résistant, quand il parle de la lucidité, il dit que c'est la blessure la plus rapprochée du soleil. La blessure la plus rapprochée du soleil, donc le soleil, évidemment, c'est ce qui apporte la lumière, mais blessure, c'est-à-dire que cette lumière, elle peut être brûlante, c'est-à-dire qu'elle nous touche. Et que, en fait, être lucide, c'est plus qu'être informé, c'est être touché. Le grand maître bouddhiste qui s'appelle Thich Nhat Hanh dit, quand des disciples venaient vers lui pour lui dire « Maître, maître, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation ?» Il disait « La première chose que vous pouvez faire, c'est d'écouter en vous, les échos de la terre qui pleure. » Et en fait, le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, ne dit rien d'autre. À un moment donné, il dit « Osez !» Alors, il dit justement, c'est pas, en fait, d'accumuler des informations, mais c'est d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui arrive à la terre. Oser transformer en souffrance personnelle ce qui arrive à la terre. Et à un autre moment, il dit même, ça va vraiment très loin, il parle même de qu'on nous devrions vivre la disparition, chaque disparition d'une espèce comme une mutilation de notre être. Vous voyez, ça va très très loin. Et là, c'est vraiment la question qui nous est posée. Est-ce que toute cette information en lien avec l'état de la planète, est-ce que véritablement cette information, est-ce qu'elle reste simplement au niveau de la tête, à venir nourrir le mental, notre réflexion intellectuelle, etc., ou est-ce que vraiment, à un moment donné, cette information, elle va descendre à l'intérieur de notre être pour venir toucher, pour venir blesser, pour venir brûler notre cœur? Vous savez que le cœur brûlant, c'est d'ailleurs une des définitions du courage. Hein, c'est ce cœur brûlant qui, à un moment donné, nous amène à nous mettre debout pour pouvoir justement nous engager. Alors, en même temps, si vous voulez, ça n'empêche pas, ça c'est un peu déjà une réponse à comment sortir de ce hiatus, mais ce hiatus existe, et ça ne veut pas dire que l'être humain serait indifférent à ce qui se passe. Mais l'être humain, d'une certaine manière, vit dans cette division entre la tête et le cœur, donc une forme de dissociation, d'ailleurs, entre le côté mental, intellectuel et le côté émotionnel, parce que d'une certaine manière, il développe des mécanismes de défense, dans le sens où quand on entre vraiment dans ce que je viens de vous partager, eh bien, on peut être envahi par des émotions, par des sentiments qui sont douloureux, qui sont difficiles à vivre, d'ailleurs parfois aussi difficiles à partager, même avec ses proches, et qui sont la peur, l'angoisse, qui sont la tristesse, des tristesses qui peuvent aller même jusqu'à des formes de dépression, qui est un sentiment d'impuissance, qui peut aller jusqu'à un grand découragement, qui est la colère. Beaucoup de personnes, je pense en particulier à beaucoup de jeunes, à l'époque au laboratoire de transition intérieure, on travaillait beaucoup avec des mouvements comme Extinction Rebellion, et on voyait à quel point la colère était un des moteurs de leur engagement. Ça peut être la culpabilité. Donc peur, angoisse, tristesse, impuissance, colère, découragement, toute une série d'émotions, de sentiments que, en fait, souvent aujourd'hui, on va mettre un peu dans ce syndrome de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, une forme de mal à la terre. Et donc l'être humain, par rapport à ses émotions et sentiments, eh bien, il va avoir tendance à s'en défendre, il va développer des mécanismes pour les refouler, pour se protéger de ces sentiments qui sont très difficiles et ces émotions qui sont très difficiles à vivre. Donc c'est ça qui va aussi nourrir cette dissociation et ce hiatus dont j'ai parlé. Et d'ailleurs, la dissociation et le hiatus, quand on est divisé intérieurement, eh bien, on entre dans des formes d'inertie et de paralysie. Donc c'est là où, pour moi, dans une démarche de lucidité, il y a vraiment un travail à faire sur ces émotions. Parce que si ces émotions ne sont pas travaillées, effectivement, alors on entre dans l'éco-anxiété, on peut même entrer dans des formes de détresse, dans des formes de burn-out. En revanche, si ces émotions sont travaillées, moi j'ai fait beaucoup d'ateliers là autour, avec notamment cette méthodologie de cet éco-philosophe qui s'appelle Joanna Macy, M-A-C-Y, qui s'appelle le travail qui relie, on va en revanche encourager, en fait, développer des dynamiques qui vont permettre de retrouver du courage, la solidarité, l'appétit de la vie, la volonté d'agir pour le vivant, etc. Donc l'importance de travailler ces émotions, et dans le travail qui relie, on aime bien parler justement de compostage, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de processus. Alors ce processus, le premier élément, c'est de reconnaître et d'accueillir ces émotions, et de les accueillir et reconnaître sans jugement. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de peur, d'angoisse, de tristesse, d'impuissance, de colère, on émet tout de suite un jugement et on dit que c'est des sentiments ou des émotions négatives. Elles ne sont ni négatives ni positives, elles sont partie intégrante de notre humanité. Sans ces émotions et ces sentiments, nous serions des robots. Et j'aurais même envie de dire qu'elles sont légitimes, qu'elles sont normales et qu'elles sont saines. Pour moi, souffrir d'une planète et d'une humanité qui souffre, c'est plutôt un signe de santé. Parce que c'est le signe d'une forme de sensibilité. C'est l'expression de notre connexion à ce vivant et à cette humanité. Et que peut-être le vrai problème, c'est l'insensibilité ou l'éco-indifférence. Et Joanna Macy dit bien que entrer dans son ressenti, c'est une condition essentielle pour que justement les souffrances de la Terre et de l'humanité nous concerne vraiment, et à partir de là, justement, nous amène à nous engager. Alors, donc, reconnaître, accueillir ces émotions, et puis ensuite, alors, et c'est là où c'est l'importance, c'est qu'existent, et il faut peut-être les créer, des espaces du coup très sécures, où on va être en sécurité, pour pouvoir exprimer et partager ces émotions avec d'autres. Alors là, il y a toutes sortes de moyens, ça peut être des cercles de parole, mais ça peut être de l'art, ça peut être de la danse, ça peut être du théâtre, il y a quantité de moyens pour ça. Mais là, ce qui est important, c'est cette dimension d'espace sécur et c'est cette dimension d'être avec des autres. Un grand problème quand on est pris dans ses émotions ou dans l'éco-anxiété, c'est la solitude. Et on voit, nous, en tout cas dans les cercles dans lesquels on pratique tout ça, à quel point non seulement ça légitimise ces émotions, mais ça permet aussi tout un travail de libération et tout un travail aussi d'une expression de solidarité et de soutien, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et ça crée vraiment des liens vraiment de soutien très très fort entre les personnes. Alors, le but, c'est pas évidemment d'exalter ces émotions pour elles-mêmes, parce qu'on pourrait aussi à un moment donné s'y enfermer, mais c'est bien ce travail de compostage. Vous savez, dans le compostage, c'est tout ce processus par lequel quelque chose va devenir des engrais. Donc, comment on va travailler, transformer l'énergie de ces émotions pour en faire des engrais pour notre engagement. Et là, c'est important de comprendre que derrière chacune de ces émotions, de ces sentiments, par exemple la tristesse, il y a une face cachée. Il y a une dimension cachée. Alors, on pourrait prendre tous les exemples que j'ai donnés, mais je prendrai simplement la tristesse. Si je suis triste au point de pleurer parce que j'entends en moi les échos de la terre qui pleurent, si je suis triste, en fait, c'est que cette terre et cette humanité souffrante, en réalité, je les aime. La tristesse devient l'expression de mon amour. Et en fait, dans ce travail de compostage, c'est cette énergie de tristesse qui est transformée pour laisser en fait émerger cette énergie et cette puissance d'amour. Et c'est cette puissance d'amour qui va justement nourrir le désir d'en prendre soin. Alors ça, on peut me dire, oui, mais bon, là, on reste dans quelque chose qui est finalement très psychologique. Alors c'est vrai. Mais là, il y a tout un travail justement en fait dans cette alchimisation des émotions, où la spiritualité, en particulier la prière, en particulier la méditation, ont un rôle essentiel à jouer. Alors quand je parle de spiritualité, c'est vraiment là, pour moi, alors, étymologiquement, la vie de et dans l'esprit. Et c'est vrai que par la prière, par la méditation, quand on arrive à avoir vraiment une qualité de prière de profondeur, eh bien, on va se connecter à cet espace du cœur dont parle toute la tradition, dont parlent les mystiques, hein, cet espace du cœur qui est le centre du sang de notre être, le lieu de la rencontre avec Dieu, de la communion, et qui est un espace, en réalité, qui est un espace très large, qui est un espace de paix, qui est un espace de lumière, qui est un espace de stabilité, qui est un espace justement de présence, de rencontre de cette présence divine. Et donc, en fait, eh bien, dans ce lieu, eh bien, en fait, les émotions, d'une certaine manière, dans ce lieu-là, qui est ce lieu source, eh bien, vont pouvoir être assumées pour ce qu'elles sont, sans prendre toute la place. Et la spiritualité, l'action de l'esprit, va permettre justement de poursuivre de manière encore plus profonde ce travail de compostage des émotions pour justement les transformer en dynamique, en mouvement. L'important, c'est vraiment justement d'être dans une dynamique et un mouvement. Hein. C'est la dynamique du pèlerin compostel, ultreia, vous savez, la devise, toujours au-delà, un pas au-delà. Donc ne pas s'enfermer dans les émotions, ne pas s'y arrêter, mais avec cette ouverture à l'esprit, dans ce lieu du cœur, permettre de leur donner leur juste place et de faire chaque fois un pas de plus pour ne pas nous identifier à ces émotions, parce que nous sommes beaucoup plus que ces émotions ou que l'éco-anxiété. Donc pour terminer sur ce point-là, avec la dimension d'espérance, eh bien, j'ai fait récemment une journée avec un grand bibliste, cette personne, à un moment donné, a dit « Mais moi, je ne comprends pas comment, en tant que chrétien, puisque nous avons l'espérance, on peut être éco-anxieux. » Alors, je n'étais absolument pas d'accord avec lui, on a eu une bonne discussion, parce que, en fait, pour moi, l'espérance n'exclut absolument pas l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, voilà, qui regroupe tout ce dont j'ai parlé, n'exclut absolument pas l'espérance. Et quand le pape François dit « prendre une douloureuse conscience, oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde », et il ajoute « et ainsi reconnaître la contribution que chacun peut apporter », hein, Laudato si, paragraphe 19, il lit en même temps cette souffrance avec la reconnaissance de la contribution que je peux apporter. Contribution qui a à voir avec cette dynamique d'espérance. Donc il ne peut pas y avoir pour moi de contribution et d'espérance, en fait, c'est comme s'il nous disait, pour qu'il y ait une vraie contribution, pour qu'il y ait espérance, cela demande de participer à la souffrance de la terre et de l'intériorisation, de l'intérioriser. Donc en fait, de bien comprendre qu'il ne faut pas opposer les choses, mais que l'espérance et tout ce que je vous ai dit, de ce que les souffrances de la terre et de l'humanité peuvent nous faire, de l'ordre aussi de la douleur, sont partie intégrante d'un chemin d'espérance. Deuxième point, c'est changer d'imaginaire. Alors en fait, si je reviens à l'éco-anxiété, à ces émotions, alors elles sont liées évidemment à l'état du monde, mais elles sont aussi liées au récit qu'on va faire de l'état du monde, aux histoires qu'on va raconter là autour, et peut-être que certains d'entre vous ont lu le livre de Pablo Servigne, « Comment tout peut s'effondrer ». On a eu, à un moment donné, vraiment toute une littérature très importante sur l'effondrement, la collapsologie, comme on l'appelait, avec évidemment une grande dimension d'ambivalence. Pour les collapsologues, il s'agissait de montrer comment tout peut s'effondrer, mais dans l'idée que ça allait permettre justement une forme de réveil, d'éveil pour la mobilisation. Mais en fait, on se rendait compte aussi que ça pouvait être très, très démobilisateur et puis plomber complètement les gens et les amener dans cette paralysie. Mais tout ça pour dire qu'à la fois, à quel point les récits, à quel point les histoires qu'on va raconter sont importantes, et d'ailleurs elles sont clés pour la transition. C'est Cyril Dion, le réalisateur du film Demain, qui disait « pour changer l'histoire, avec un grand H, il faut changer d'histoire ». Et c'est vrai que les histoires qu'on se raconte, les récits qu'on se raconte, et d'une certaine manière, peut-être qu'il y aura encore tout un travail à faire autour d'Église verte, finalement, c'est quoi notre récit, hein, beaucoup plus profond, parce que c'est ce qui va donner justement un sens à notre action, c'est ce qui va donner une vision du monde partagée, C'est ce qui va être un moteur pour la mobilisation et c'est aussi ce qui va être une source pour la coopération. Hein. Notion, dimension de sens, vision du monde, moteur pour la mobilisation et source de coopération. Alors, cette Joanna Macy dont j'ai parlé, qui a donc lancé toute cette méthodologie de transformative du travail qui relie, elle, quand elle parle de la situation dans laquelle nous sommes, elle dit « nous sommes dans une situation d'incertitude radicale ». Et elle dit « dans cette situation d'incertitude radicale, nous avons fondamentalement le choix entre trois histoires ». Alors, d'abord, deux, trois mots sur cette notion d'incertitude. Alors, l'incertitude, moi j'aime bien cette notion parce que ça veut dire qu'effectivement, on est d'une certaine manière comme sur une ligne de crête. Et ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est pas très confortable. Et d'ailleurs, elle dit qu'il faut apprendre à danser avec l'incertitude. Alors, c'est vrai qu'on a d'un côté des trajectoires, dont la lucidité d'ailleurs nous rend conscients et qui sont pour le moins inquiétantes. Mais en même temps, dans l'idée d'incertitude, c'est que tout n'est pas joué. C'est qu'il est tard, de plus en plus tard, mais qu'il n'est pas encore trop tard. Que le probable ou le pire est possible, mais qu'il n'est pas certain. Donc voilà, hein, pas de fatalité, pas de déterminisme. Et du coup, dans cet espace d'incertitude, l'ouverture à d'autres possibles, à des émergences. Et des émergences dont précisément il va falloir créer les conditions pour qu'elle puisse se réaliser. C'est très, très clair dans ce que nous avons entendu en ouverture de cette journée. Et parmi les conditions, c'est d'une certaine manière l'importance de faire des choix. Et de faire des choix qui sont radicaux. Dans le sens, pas d'aller aux extrêmes, mais dans le sens d'aller à la racine des problèmes. Et ces racines sont spirituelles. Alors, pour les décrire très rapidement, Joanna Macy dit « Nous avons le choix entre trois histoires. » Une première histoire, c'est ce qu'elle appelle le « business as usual ». C'est-à-dire qu'en fait, on continue comme on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, certes, on a pris conscience de problèmes, on amène des mesures de correction, des mesures pour freiner les dégâts, on essaie de recréer des régulations, etc. C'est un petit peu tout ce qu'on met sous le mot de « développement durable » au sens faible du terme, et qui est quand même encore le discours dominant du monde politique et économique, avec cette idée, qui est en fait une forme d'espoir, c'est que l'être humain, par son intelligence, et en particulier par la technologie, va bien finir par trouver des solutions aux problèmes. Donc il y a un grand espoir qui est mis dans les solutions technologiques. Pour Joanna Macy, en fait, c'est une forme de déni de réalité. La deuxième histoire, c'est ce qu'elle appelle la grande désagrégation. Alors on pourrait dire que c'est le scénario et c'est l'histoire des effondrements. Alors là, on n'est pas dans le déni de réalité, on ose regarder en face ce qui est en train de se passer, donc on est vraiment dans la lucidité, avec toutes les émotions dont j'ai parlé, qui peuvent conduire à l'éco-anxiété et qui peuvent conduire à des formes de désespoir. Et puis la troisième histoire, c'est ce qu'elle appelle le changement de cap, on pourrait dire que c'est la grande transition, pour reprendre le titre du livre que Cécile Renoir du campus de la transition a coordonné, hein, le manuel de la grande transition, c'est vraiment la transition au sens fort, ce que Joanna Macy appelle d'ailleurs aussi l'espérance en mouvement, c'est-à-dire vraiment c'est l'engagement personnel et collectif pour opérer cette transition, ce grand passage, pour aller vite de ce système croissanciste, obsédé par la croissance matérielle, productiviste, consumériste, qui, en fait, par sa démesure, détruit la planète, détruit le vivant, et conduit à des burn-out systémiques, et de l'individu, et de la Terre, pour aller vers des sociétés, qui sont peut-être des sociétés de sobriété, sobriété joyeuse, ou justement, qui seront fondées sur des relations plus justes, réajustées, tissées de justesse entre les êtres humains et la Terre et les autres humains. Voilà, c'est ce grand passage. Et en fait, ça, c'est une façon de définir cette grande transition de manière très rapide. Et alors, par rapport à ça, je dirais qu'il y a peut-être deux questions qui nous sont posées. La première, c'est dans quelle histoire est-ce que je suis, si je suis honnête avec moi-même. Et en fait, on se rend compte, quand on se pose cette histoire, qu'on peut être dans plusieurs histoires, en fait, selon les moments de la journée, selon les journées, selon les moments de notre vie. Mais il y a encore une question plus fondamentale, c'est dans quelle histoire est-ce que je désire être ? Indépendamment de l'histoire dans laquelle je suis, dans quelle histoire est-ce que je désire être ? Et on pourrait peut-être se dire que peut-être chaque matin, quand on se lève, on pourrait se poser cette question. Aujourd'hui, dans quelle histoire est-ce que j'ai envie d'être ? Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Toute l'écologie, toute la transition, c'est pour moi des dynamiques de désir et d'aspiration. La transition, c'est le changement désiré. Et aujourd'hui, très souvent, quand on parle d'écologie, de transition, on est dans du « il faut, il faut, il faut, il faut ». Alors, on sait bien tout ce qu'on devrait faire, mais à un moment donné, le « il faut », ça devient très épuisant et laborieux et décourageant. Mais je pense que la vraie dynamique, ce n'est pas du « il faut », mais c'est vraiment du désir. Voilà, ce qui est vivant en moi, c'est une aspiration. Donc voilà, aller vers une écologie du désir. Et je reviens à la notion de choix. Alors aujourd'hui, beaucoup d'auteurs disent, voilà, nous sommes dans un moment carrefour de l'histoire de l'humanité. Je reviens à ce choix radical entre trois histoires. Edgar Morin, il dit, on a le choix, le grand sociologue, voilà, qui a 102 ans maintenant, je crois, il dit, on a le choix entre l'abîme ou la métamorphose. Et moi, j'avais, en son temps, quand j'étais encore journaliste, au début des années 90, j'avais fait une interview du philosophe catholique Jean Guiton. C'était pas très longtemps avant sa mort, et il me disait à un moment donné, l'humanité approche d'un point vertigineux où elle aura à faire un choix radical, entre la métastrophe et la catastrophe, entre la mutation des consciences et le suicide cosmique. Donc on pourrait dire entre la conversion écologique et l'effondrement. Et ça, c'était au début des années 1990. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus simplement en train d'approcher de ce point, mais nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Et en fait, que nous sommes vraiment dans ce moment du choix, et que ce choix, c'est un choix entre la vie et la mort. Et vraiment, c'est... Moi, chaque jour résonne en moi ce verset biblique de Deutéronome 30, « Vois, je te propose vie et bonheur, mort et malheur, choisis la vie pour que toi et ta postérité, c'est-à-dire les générations futures, vous viviez. » Et je pense que nous sommes dans ce moment-là. Ce choix, c'est entre la vie et la mort, c'est entre des dynamiques qui nous conduisent vers la mort ou des dynamiques qui nous conduisent vers la vie, aussi bien au plan individuel que collectif. Alors, dans la dynamique entre ces trois histoires, qui sont évidemment profondément interreliées, la tentation qu'on pourrait avoir, ce serait de tout de suite passer de l'histoire 1, c'est-à-dire le business as usual, à l'histoire 3, la grande transition, en passant par-dessus l'histoire de la grande désagrégation. Eh bien, notre expérience, mon expérience aussi en lien avec le laboratoire de transition intérieure et avec toutes les dynamiques de transition dans laquelle je suis, et aussi en éco-spiritualité, c'est que notre engagement pour la grande transition, donc dans l'histoire 3, prend beaucoup plus de sens et de profondeur si on a traversé la deuxième histoire. Alors de nouveau, il ne s'agit pas de faire de l'histoire 2, la grande désagrégation et l'effondrement, avec l'éco-anxiété, l'histoire dans laquelle on va être et où, dans laquelle on pourra même finir par être enfermé, mais c'est de traverser cette histoire à travers en particulier ce dont j'ai parlé, qui est ce compostage des émotions. Et vraiment, du coup, de comprendre que, voilà, transire, hein, on retrouve transire, l'étymologie latine de transition, faire un pas au-delà, aller au-delà, et peut-être, du coup, aller au-delà de tous les faux espoirs. Ça ne veut pas dire que la technologie n'a pas quelque chose à apporter dans la solution à tous les problèmes qu'on a, mais ne pas mettre, en fait, son espérance dans la technologie. Il peut y avoir quelque chose, ou dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, ou dans des figures, des grandes figures qui seraient des nouveaux sauveurs de l'humanité. Donc peut-être que cette traversée de la deuxième histoire va nous permettre aussi de nous délivrer, de nous libérer de tous ces faux espoirs. Et Bernanos disait, l'espérance, c'est le désespoir surmonté. C'est comme s'il disait, ben voilà, c'est le désespoir surmonté, c'est-à-dire la traversée de cette deuxième histoire. Et donc, en fait, la transition, dans ce sens-là, c'est une Pâque. C'est un passage. C'est un passage où on va passer d'une vie avec un petit V marquée par la mort et dans des dynamiques de mort pour aller vers la vie avec un grand V. C'est-à-dire qu'il va falloir mourir à quelque chose qui est ce système qui détruit et qui épuise pour aller, pour renaître à autre chose, porteur de vie. Et là, on est vraiment dans cette espérance transformative puisque cette autre chose, eh bien, c'est permettre cet avènement, ici et maintenant, du royaume dans sa nouveauté. Hein. C'est, voilà, on a cité l'Apocalypse. Voici, je fais toute chose nouvelle. Il y a une dimension de nouveauté dans en fait, cette espérance liée à l'avènement du royaume et qui est en fait cette dynamique de Pâques. Et du coup, dans la transition, eh bien, pour aller où eh bien, en fait, cette troisième histoire, c'est pour ça que la transition n'est pas une idéologie, c'est-à-dire qu'en fait, cette troisième histoire, voilà, ce changement de cap où on va vers des sociétés, alors, c'est une des expressions de sobriété, sobriété joyeuse. Eh bien, en fait, c'est pas quelque chose qui est, j'aurais envie de dire, comme ça, prédéfini, hein, comme l'étaient les grands récits du XXe siècle avec le communisme, etc. Ce sont on sait qu'on va quitter ce système pour aller vers autre chose. Par exemple, les sociétés de sobriété joyeuse. Mais ces sociétés, elles ne sont pas prédéfinies, elles sont à co-créer. Et elles pourront prendre des formes variables selon les lieux, selon les personnes, selon les cultures. Mais nous, à titre individuel et collectif, typiquement en tant qu'engagés dans l'Église verte ou chrétien, eh bien c'est à un moment donné de pouvoir moi-même identifier mon désir ou notre désir en tant que collectif, vers quoi on a envie d'aller, quelles sont les valeurs qui nous tiennent à cœur et que ce vers quoi on veut aller permettront d'exprimer, et puis par rapport à ça, eh bien quel rôle on peut jouer, je peux jouer, je veux jouer, et quels pourraient être les premiers pas pour aller dans cette direction. L'Église verte est clairement dans cette dynamique et offre déjà des éléments pour faire des pas dans cette direction. Ça, c'est au plan, si vous voulez, aussi, évidemment, ça s'incarne, tout ce que je dis doit s'incarner, évidemment, dans la vie économique, sociale, politique, mais au niveau spirituel, ce vers quoi on va avec la troisième histoire, pour moi, c'est d'aller vers une conscience et une expérience de l'unité. J'aime beaucoup l'expression de ce grand philosophe qui s'appelle Raymond Panikkar, catalan, qui, à un moment donné, parle de la trinité radicale. On retrouve le mot de radical. Et lui, alors, quand il parle de trinité radicale, évidemment, il y a un petit clin d'œil à la trinité Père, Fils, Esprit. Mais quand il parle de trinité radicale, pour lui, c'est la trinité ou triunité cosmos, création, humain et Dieu. Cosmos, humain et Dieu. Et pour lui, elle est radicale parce que cette unité, elle est ce qui sous-tend en profondeur et de manière invisible tout le réel, toute la création. Et cette unité, elle est donnée. Et elle a été restaurée, on pourrait dire, par le Christ. Dans sa vie et dans tout ce voilà dans tout son passage. Et en fait, si vous voulez, eh bien, mais la réalité, c'est que cette trinité ou triunité, elle est en permanence détruite, elle est en permanence dégradée. Et on pourrait dire que ce qu'on appelle les bouleversements écologiques, c'est tout autant de manifestations et d'expressions de la dégradation et des ruptures de ces relations fondamentales et fondatrices et vitales à l'extérieur et à l'intérieur de soi, entre le cosmos, la création, la nature, l'humain et Dieu. Et là, on touche la notion de péché écologique, alors au sens, j'aurais envie de dire, spirituel du terme, et pas moralisateur, le péché qui est, vous savez, le grec de l'évangile, amartia, manquer la cible, c'est-à-dire manquer la cible de cette unité à réaliser. Et d'une certaine manière, eh bien, le péché, c'est justement être dans en fait, des dynamiques et des relations de séparation ou de brisure de relations. Et notre grande vocation entre êtres humains, le pape François parle de vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu, qui fait qu'évidemment ce n'est pas une option, hein, ça fait partie intégrante de la foi chrétienne et de notre chemin de foi, Eh bien, un, en fait, notre vocation spirituelle, éco-spirituelle par rapport à ça, c'est de devenir des agents et des acteurs de cet accomplissement de l'unité entre le cosmos, l'homme et le divin. Et ça, ça suppose justement une conversion, ça suppose une nouvelle conscience pour devenir vraiment des ponts entre la terre et le ciel. Alors, les moteurs pour cette espérance, eh bien, ils sont multiples. Parce que, en fait, donc, les moteurs pour cette conversion, et donc liés à l'espérance, pour accomplir finalement cette transition, pour accomplir, aller vers cette unité. Alors, le pape François, dans la lettre aussi, il en évoque plusieurs de ces moteurs, de ces sources d'espérance, hein, qui vont nous donner justement cet élan. Alors, d'abord, il parle de la foi, et de la foi en particulier entre l'être humain. Et pour le pape François, d'ailleurs, là, il rejoint les éco-spirituels, les éco-psychologues. Eh bien, l'être humain a une capacité à changer. L'être humain, il est capable du pire, et on le voit bien avec le spectacle désolant qui est donné ces derniers temps, mais il est aussi capable du meilleur. L'être humain, il n'est pas réductible à l'avidité, au pouvoir, à la soif de pouvoir, aux égoïsmes, à la quête du profit, à l'attachement aux richesses matérielles, etc. Il existe au très fond de notre être, ce que certains éco-psychologues appellent une personne secrète indemne. Personne secrète indemne, qui est cette personne qui est capable de dépassement de soi, de ses intérêts propres, qui est capable d'une aspiration à l'amour, à la beauté, à la justice, qui est capable de relations harmonieuses, écologiques, avec les autres humains et autres qu'humains. Et ça, t'a rejoint, bibliquement, l'être humain créé à l'image et à la ressemblance, qui est comme l'image, comme une potentialité, évidemment là aussi à accomplir en ressemblance, comme le disent un certain nombre de pères de l'Église, avec évidemment l'usage de notre liberté. Et Dieu nous a créés libres, et là il a pris un risque, mais en même temps il a aussi fait un acte de foi par rapport à l'être humain, et en nous appelant justement à prendre soin de cette création. Donc premier moteur, c'est la foi en l'être humain, source d'espérance. Deuxième moteur, eh bien, c'est évidemment la foi en Dieu, grande source d'espérance. Comme le dit le pape François, Dieu n'abandonne pas la création. Dieu n'abandonne pas l'être humain. Et c'est peut-être justement c'est cette promesse hein, dont on a parlé tout au début, cette promesse, qui est d'ailleurs aussi la promesse du Christ, « Je serai avec vous jusqu'à la fin hein, », ce Dieu avec vous, Emmanuel. C'est cette promesse, Dieu est là, Dieu n'abandonne pas. Et cette promesse, c'est pas la promesse d'une sortie de crise. C'est pas justement cette certaine vision de l'espérance où Dieu, ben voilà, finalement, va venir résoudre tous les problèmes. Excusez-moi, pardonnez-moi cette question. Dieu va rien résoudre. Dieu, il n'est pas là pour solutionner nos problèmes écologiques, techniques, d'énergie, etc., etc. Mais sa promesse, c'est qu'il est là. Sa promesse, c'est sa présence. Sa promesse, c'est que nous ne sommes pas seuls. Sa promesse qu'il est avec nous pour justement que nous puissions participer à cette... parce qu'il participe à cette vie de la création, pour que nous puissions lui participer nous aussi, et lui nous donne cette force, l'inspiration, pour pouvoir traverser, opérer ce grand passage qui est la transition et qui est ce grand passage voilà, à travers la deuxième histoire. Et la condition, c'est l'ouverture du cœur. C'est-à-dire que Dieu est présent, Dieu peut agir en nous, à travers nous, mais pour autant qu'on lui laisse la place. Qu'on laisse la place à l'esprit pour agir et travailler en nous. Et ça, c'est tout le chemin spirituel, en particulier avec la prière, avec voilà, la cèse, avec le jeûne, nous sommes entrés dans le carême, etc. C'est recréer cet espace. Et là, je ne peux pas ne pas mentionner Eti Ilesum, vous savez, cette grande mystique juive qui a été gazée à Auschwitz. Et dans une prière, elle dit... Ce n'est pas toi, donc elle s'adresse à Dieu, ce n'est pas toi qui peux nous aider. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. Et comment nous pouvons aider Dieu? Eh bien, elle dit, c'est simplement lui laisser qu'il y ait un peu de toi, Dieu, en nous. C'est-à-dire créer un espace pour que Dieu puisse faire sa demeure et vivre en nous. Alors, je vois le temps qui passe. On avait parlé de 45 minutes, donc je ne vais pas avoir la possibilité de, ça passe très vite, de développer Le troisième point, mais on pourra y revenir peut-être dans la discussion, qui est cette dimension de reliance profonde au vivant. Et ça, c'est encore une autre source d'espérance. C'est cette reliance au vivant, cette reliance à la création. Et je dirais en tant que chrétien, parce que voilà, ce vivant, voilà, mais quand je parle de reconnexion, c'est une reconnexion en profondeur, une reconnexion intime, où on va entrer dans cette nouvelle conscience, une conscience vécue, une conscience expérientielle, que nous faisons partie de ce vivant, qui fait partie de nous, qu'il y a comme une co-appartenance, une communion. Et d'ailleurs, la racine des problèmes écologiques, etc., c'est que nous sommes dans une déconnexion par rapport à ce vivant. Je l'ai déjà dit. Mais en fait, ce vivant, il a une puissance, il a une force. Il nous inscrit dans une histoire beaucoup plus large. Le temps profond ancien et le temps aussi profond des générations futures. Il y a cette puissance de vie qui a permis à ce vivant de traverser des extinctions, des bouleversements, des métamorphoses, des morts renaissances. Et se connecter au vivant, c'est aussi nous connecter à cette force. Et en tant que personne de foi, en tant que chrétien, là c'est la dimension, en fait, qui est la dimension, j'aurais envie de dire, spirituelle, c'est que quand on se connecte en profondeur au vivant, eh bien, en fait, on rencontre Dieu, on rencontre l'Esprit, on se connecte à ce qui est la source de ce vivant et de cette puissance de vie. Et ça, c'est ce qui va précisément, l'expérience de cette présence dans le vivant, de cette présence de Dieu dans la création. Comme dit le pape François, la création est la manifestation de Dieu. Alors ça, c'est les fameuses théophanies. Mais c'est aussi le lieu de sa présence. Et comme il le dit, c'est le lieu de sa présence et c'est l'expérience de cette présence qui va permettre de développer ce qu'il appelle les vertus écologiques, au sens non pas moral, mais au sens de puissance d'âme, au sens d'attitude intérieure, comme le respect, comme la gratitude, comme l'émerveillement, l'humilité, la responsabilité et bien sûr l'espérance. Et je vais terminer avec l'action, quatrième composante de cette dynamique de conversion écologique en lien avec l'espérance. Alors l'action, évidemment, c'est très important. D'ailleurs, beaucoup de psychothérapeutes qui accompagnent des personnes qui sont prise d'éco-anxiété, eh bien le disent, c'est un des meilleurs remèdes, c'est l'action. Alors cette action, elle peut prendre des formes multiples, et souvent c'est des toutes petites choses. Voilà, ça peut avoir avec cultiver un plant de tomate sur son balcon, mais voilà, et puis après il y a tous les éco-gestes auxquels qu'on peut mettre en œuvre, et puis après au niveau collectif, c'est tous les engagements qu'on peut faire au niveau d'une paroisse, dans les initiatives citoyennes, ou les actions de désobéissance civile. Donc les formes de cet engagement peuvent être multiples. Mais quelle que soit la forme qu'on donne, ce qui est intéressant avec l'action, c'est que ça permet en fait de faire recirculer, de réouvrir ce qui pouvait être fermé, et de faire recirculer une énergie qui pouvait être un peu bloquée, si vous voulez. Et l'action, parce que là c'est important en transition de ne pas faire les choses seules dans son coin, et c'est là pour moi où c'est très différent du développement personnel ou de certaines formes de développement durable, c'est que dans la transition ou dans des dynamiques comme celles que vous vivez aujourd'hui, on est dans des dynamiques collectives, on est avec d'autres. Et donc dans ces actions faites avec d'autres, ça permet de sortir de sa solitude, ça permet de tisser des relations et dans ces relations et dans ces engagements, ça peut être des formes aussi importantes de revalorisation de soi, et de retrouver un sens, d'une certaine manière, à travers le service au vivant et à la communauté, un sens de forme, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais d'utilité. Et puis ça permet aussi, du coup, de récupérer un pouvoir d'agir pour justement sortir d'un sentiment d'impuissance. Et Joanna Macy, on a traduit par espérance en mouvement, elle parle de « active hope », l'espérance active. Et l'espérance, c'est, comme je l'ai dit, c'est évidemment quelque chose qu'on reçoit, c'est une grâce, mais c'est aussi quelque chose qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a à voir avec l'action. J'aime beaucoup cette notion de active hope. C'est un processus qui a à voir avec un processus d'engagement et d'action, un processus en fait de quelque chose qui va être une mise en pratique. Et là, l'important évidemment, c'est l'intention et l'aspiration. Mais ce que je veux dire par là, parfois on nous dit, oui, mais bon, pour pouvoir agir, il faut espérer. Eh bien, moi, je dirais qu'en fait, on n'a peut-être pas besoin d'espérer pour agir. et que le fait de nous mettre en mouvement, en action et de nous engager est source d'espérance. De même que, bien sûr, l'espérance peut être source d'engagement. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est un petit peu... Joanna Macy utilise la métaphore de l'huître. Vous savez, l'huître, comment elle génère une perle ? Là, eh bien, en fait, l'huître génère une perle en réponse à une agression. À une agression extérieure. Alors, ça peut être du sable qui rentre dans la coquille, ça peut être voilà, un autre organisme qui vient parasiter, etc. Eh bien, pour répondre à cette agression, l'huître, elle génère une perle. Et bien, peut-être que cultiver l'espérance, c'est générer des perles dans ce monde de violence et d'agression. Et en fait, générer des perles comme des dons de notre être et des dons de Dieu que justement nous allons pouvoir offrir au monde, que nous allons pouvoir offrir aux vivants en réponse à toutes les violences et toutes les dégradations et toutes les destructions en cours. Et comme mot de conclusion, j'aimerais simplement vous dire, je suis retombé là-dessus récemment, c'est un texte d'un grand maître hassidique, et voilà, les maîtres hassidiques, donc c'est ces courants de la mystique juive qui se sont développés en Europe de l'Est, et à un moment donné, un de ces maîtres, un de ces grands maîtres hassidiques dit cette parole comme clé de la vie spirituelle, il est interdit d'être vieux. Il est interdit d'être vieux. Je trouve ça extraordinaire. Et après, évidemment, tradition juive, on lui dit, mais rabbin, ça veut dire quoi être vieux ? Et il dit, on est vieux quand on a la nostalgie de l'espérance. C'est-à-dire quand on a perdu ce lien, quand on a perdu ce sentiment, ce lien avec ce souffle, quand on a perdu ce lien avec cette présence qui est justement la source de toute vie, qui fait toute chose nouvelle et qui est en fait le moteur et la source de l'espérance. Voilà, j'ai un tout petit peu dépassé mon temps de parole, je m'en excuse. Je vous remercie de votre attention.
D'abord, merci beaucoup. Vous nous entendez ? Oui ?
Oui, oui, je m'entends.
Ok. D'abord, merci beaucoup pour ces paroles profondes. Je ne prends pas d'autres qualificatifs, ce n'est pas la peine. Et après ces paroles profondes, eh bien, essayons de les faire rentrer en nous-mêmes et de les partager. Alors, je vais vous proposer 2 minutes, c'est court et c'est long, de silence, d'intériorisation. Vous rentrez en vous-même et vous vous dites qu'est-ce que j'ai entendu qui me concerne au fond de moi. Et puis après, vous allez vous mettre par petits groupes de 3 ou 2, selon comment vous êtes situé. Ça va faire un petit peu de bruit avec les chaises. Et vous allez partager rapidement, hein, chacun 1 minute, 2 minutes, ce que vous avez en vous. Voilà. Et puis après, on passera aux questions-réponses avec Michel Maxime. On fait comme ça ? Voilà. C'est parti. C'est l'heure de la foire aux questions. Est-ce que vous voulez bien vous remettre à peu près en ordre ? Je me doute que la moisson est très riche. Et voilà. La moisson de questions est très riche et je vous propose de nous remettre ensemble maintenant. Voilà. Donc on continue à échanger avec Michel Maxime, qui est toujours là. Merci de rester avec nous. Et donc c'est Antoine qui nous pilote.
Alors, on va commencer par une spécificité sur l'apport spécifique de l'orthodoxie sur le sujet écologie-espérance. Et comment inspirer les autres confessions chrétiennes là-dessus?
Alors, la spécificité ou les spécificités orthodoxes, bon, d'abord, fondamentalement, évidemment, on est dans la tradition chrétienne, donc c'est d'ailleurs le pape François cite à plusieurs reprises le patriarche Bartholomée. Je dirais qu'on a quand même une grande convergence de vues, de sensibilités entre les familles chrétiennes, en particulier en lien avec l'encyclique. Après, ce que je dirais, alors il y en a plusieurs, alors pour moi c'est vraiment des questions, c'est des accents. Ça a plus à voir, presque, on pourrait dire, avec des formes de coloration ou de. Alors, par exemple, pour moi, ce qui est vraiment très très important, mais de nouveau, c'est pas exclusif à la tradition orthodoxe, parce qu'on retrouve ça évidemment aussi dans les traditions protestantes et catholiques, mais c'est ce qu'on appelle le panenthéisme. Alors, je disais tout à l'heure, et puis il y a des très belles ouvertures dans Laudato si', où il y a ce passage du pape François qui cite d'ailleurs les évêques du Brésil quand il dit que la création, la nature n'est pas que la manifestation de Dieu. Ça, c'est vraiment très classique, hein, cette idée, que la création manifeste la beauté, la bonté, la générosité de Dieu, etc. Mais quel est le lieu de sa présence? Et là, on est dans ce qu'on appelle le panenthéisme, pan en theos, qui est en fait la doctrine de tout en Dieu et Dieu en tout, qui n'est pas du panthéisme, parce que le panthéisme reviendrait à identifier la nature à Dieu, donc à diviniser la nature. Mais en fait, d'une manière mystérieuse, mystérique, Dieu est présent dans la nature, et la nature est présente en Dieu. Bon, voilà. Alors, je pense que la tradition orthodoxe, comme je dis, c'est aussi présent, en particulier, je pense à Jürgen Moltmann, grand théologien protestant, qui parle de l'inhabitation mutuelle de Dieu dans la création, donc Dieu habite dans la création en Dieu, mais que je pense que c'est un accent qui a été mis très fort par la tradition orthodoxe au niveau théologique, et en particulier avec donc il y a tous des développements théologiques là autour, et avec une théologie qu'on a appelée la théologie des énergies divines ou des énergies incréées. Alors que j'ai pas le temps de présenter parce que c'est assez énorme, mais c'est l'idée en fait que un des modes de présence de Dieu dans la création, c'est par ses énergies. Et là, en fait, c'est une réflexion qu'on trouve chez les pères de l'Église, qui a été synthétisée au XIVe siècle par Grégoire Panamas. Et c'est cette idée, justement, d'une présence de Dieu. En fait, si vous voulez, une des manifestations, c'est notamment Dieu comme lumière, qui se manifeste comme lumière dans la création, avec en particulier l'épisode de la transfiguration du Christ sur le mont Tabor. Mais c'est aussi, Dieu qui va être présent dans le feu, qui va être présent dans la brise, à l'horeb, etc., etc. Et donc, en fait, cette idée, d'une présence. Et Grégoire Palamas parle de la création comme un grand buisson ardent. Il reprend cette image-là qui, en fait, irradie des énergies divines et, en fait, qui, en même temps, c'est ce buisson qui ne se consume pas. Donc, il y a ça, je pense que c'est vraiment la tradition orthodoxe qui a développé ce type de mode de présence. Alors, il y en a d'autres, qui est très, très spécifique. Et cette théologie des énergies divines, qui est partie intégrante du corpus dogmatique de l'Église orthodoxe, n'a pas été reprise par les autres confessions chrétiennes. Donc là, je pense qu'on a un point dans un chemin, si vous voulez, de réenchantement de notre regard sur la création comme lieu de la présence de Dieu. Peut-être qu'un autre point important pour la tradition orthodoxe, ça va être toute la dimension de. Alors, on est dans le carême, mais je pense que la tradition orthodoxe met aussi beaucoup l'accent sur la dimension de l'ascèse au niveau du mode de vie, avec l'accent justement non seulement sur le jeûne, mais sur le travail de ce qu'on appelle toutes les passions. Et donc là, en fait, si vous voulez, je pense que la tradition orthodoxe va vraiment mettre l'accent, en lien en particulier avec le consumérisme, sur tout le travail qui est à faire à l'intérieur de nous pour pouvoir réorienter notre puissance de désir. Vous savez, Grégoire de Nyssa, quand il parle de la puissance de désir, Il part de la puissance de désir comme une des dimensions de l'image de Dieu en l'être humain. Une des caractéristiques de l'image de Dieu en l'être humain, c'est certes la raison, ça c'est saint Augustin qui a beaucoup travaillé là-dessus, mais Grégoire de Nyssa parle de notre puissance de désir. Et en fait, cette puissance de désir, elle est la source de nos aspirations les plus profondes, à la beauté, à l'amour, à la justice, etc. Mais elle est en permanence, si vous voulez, désorientée. Et justement, ce qu'on appelle les passions, les fameuses passions, c'est des manifestations de cette puissance de désir qui s'est déconnectée de sa source, qui est divine à travers l'image de Dieu, mais qui s'est aussi déconnectée de sa finalité, qui est une finalité de communion et de transfiguration de la création. Et voilà. Donc je pense que là, on a tout ce travail ascétique de réorientation de notre puissance de désir, et c'est un des chemins pour sortir du consumérisme, puisque tout le système capte cette puissance de désir pour la désorienter, la transformer en envie, pour nous faire participer à ce système, en nous faisant croire que c'est à travers des biens matériels et la consommation qu'on va pouvoir la satisfaire. Voilà une autre spécificité, il y en aura encore deux, trois autres, mais je vais m'arrêter là.
On a beaucoup, beaucoup de questions, on les verra pas toutes. Il y a pas mal de questions sur les trois récits, donc je vais en prendre une. Comment mettre en mouvement ensemble dans une assemblée des personnes qui sont toutes dans l'un ou l'autre des trois récits?
Alors là, il y a différentes techniques d'animation qu'on peut faire. Vous pouvez, par exemple, on aime bien en transition, on fait du travail dans l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un peu enlever les chaises, et puis vous dites, ben voilà, vous mettez des petits panneaux, vous indiquez, ben à cet endroit-là, c'est comme un grand triangle, ou même vous faites un quadrilatère, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, c'est la première histoire, à cet endroit-là, c'est la deuxième, à cet endroit-là, la troisième. Et vous demandez aux personnes de se situer, alors d'abord d'intérioriser, puis de se poser cette question dans quelle histoire ils sont, le plus souvent, et ils vont aller se situer géographiquement dans l'espace. Et puis certains, ben, ils vont peut-être être entre deux histoires, voilà. Donc voilà, c'est comme si vous aviez une espèce de mapping territorial. Et puis vous pouvez commencer à poser aux questions pourquoi ils se sont mis là, alors pas à tout le monde. Et puis ils vont commencer à expliquer pourquoi ils se sont mis là. Et puis peut-être d'ailleurs qu'en entendant les raisons, etc., vous offrez la possibilité aux personnes de se déplacer. Parce que tout à coup, j'entends, puis je me dis, mais en fait, non, moi je suis plutôt là. Puis après, vous posez la deuxième question de où est-ce que je désire être? Et puis de nouveau, vous pouvez. En fait, voilà. Et après, vous pouvez faire, en fonction des personnes qui se sont retrouvées à un endroit, peut-être avoir un petit moment d'échange entre elles, pourquoi elles se sont mis là. Et puis après, peut-être, un deuxième point, c'est de dire, OK, j'étais dans cette histoire-là, j'aurais envie de passer à la troisième histoire. Qu'est-ce qui m'empêche de passer à cette troisième histoire? Et là, vous pouvez faire des petits travaux de groupe sur les obstacles, à la fois les motivations et les obstacles pour passer d'une histoire à une autre. Donc là, il y a plein de techniques d'animation là autour qui sont très, très chouettes.
Merci. Il y a des questions, vous rencontrez les écologistes athées, je ne vous pose pas la question. Comment les écologistes athées reçoivent l'aspect spirituel de la transformation à laquelle nous aspirons?
Alors là, on a, si vous voulez, il y a des athées qui sont... Moi, je suis en Suisse. Alors, je pense que la question de la spiritualité, elle se pose culturellement d'une autre manière qu'en France, avec, pardonnez-moi l'expression, le laïcisme, parce que c'est quasiment devenu chez certaines personnes un isme, le laïcisme républicain, où on est par définition méfiant par rapport à la spiritualité. En Suisse, je pense qu'on est plus décontracté par rapport à ce mot-là. Donc on peut plus facilement l'amener, mais bon, moi je viens pas mal en France aussi, donc je peux aussi être confronté à ça. Et je pense que là, il y a vraiment une question de langage qui est absolument fondamentale. Là, évidemment, j'ai pu me lâcher, je suis dans un milieu chrétien, donc je peux amener plein de références, je peux parler de la spiritualité, parler de Dieu, parler du Christ, parler de l'Esprit Saint, etc. Évidemment, si vous êtes dans un milieu athée, alors en même temps, voilà, il faut trouver un langage. Et pour moi, en transition, nous, j'ai coécrit avec deux amis belges qui étaient des pionniers de la transition intérieure, en lien avec le laboratoire de transition intérieure, on a écrit un livre qui s'appelle « Le manuel de transition intérieure », qui est un peu le complément du manuel de la grande transition, qui a paru chez Actes Sud en 2023. Et moi, j'ai fait un chapitre sur la spiritualité, et nous, on est parti sur le plus grand que soi. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas forcément le mot de Dieu, qui va pouvoir mettre peut-être tout de suite certaines personnes sur les pattes de derrière, mais on parle du plus grand que soi. Et puis, généralement, quand vous faites la distinction entre spiritualité et religion, ou expression religieuse de la spiritualité, déjà, ça décontracte pas mal de personnes, parce que ça ne va pas être la spiritualité égale christianisme, égale catholicisme, égale bouddhisme, égale islam, etc. Donc, vous faites la distinction entre religion et spiritualité, et après spiritualité, on peut partir sur cette dimension du plus grand que soi. Et on peut être, après, on part, et ça c'est vraiment alors très très important pour la tradition orthodoxe, c'est toute la dimension apophatique de la théologie, c'est-à-dire ce que je disais au début par rapport à l'espérance, c'est que ce plus grand que soi, c'est un mystère auquel on peut donner plein de noms, plein d'expressions, et d'ailleurs que les traditions religieuses ont exprimé de différentes manières, à travers des doctrines, à travers des rites, mais en fait que c'est un mystère qui est de toute manière toujours au-delà de ce qu'on peut en dire. Donc on amène peu à peu les choses comme ça, et puis on peut même, à un moment donné, ouvrir un espace, et généralement, quand même, des personnes, c'est rare que des personnes aient au minimum pas fait une expérience de plus grand que soi, dans des expériences typiques de connexion à la nature, de communion à la nature, ou choses comme ça, qui ouvrent pas forcément sur la dimension divine, mais qui peuvent ouvrir sur la dimension divine. Donc là, c'est vraiment une question de pédagogie, et puis après, de toujours, évidemment, dès qu'on commence à parler, à dire de à partir de où je parle, et ça de nouveau, et que je n'absolutise absolument pas ce que je suis en train de dire pour en faire une norme. Voilà.
Merci. Plusieurs questions sur la ligne de crête. Comment garder et emmener les autres dans la cordée de la ligne de crête pour qu'ils ne terminent pas dans l'abîme?
Ben, si vous voulez, c'est là où je reviens à un moment donné à des outils très pratiques, c'est-à-dire, et c'est vraiment ce qu'on a pu expérimenter avec, en particulier avec le travail qui relie, avec tous les ateliers qu'on a fait autour de la reliance, et qui ont toujours, si vous voulez, en fait, alors c'est une approche, je reviens à l'approche de Joanna Macy, du travail qui relie. Et je pense que le modèle, après, on peut le décliner de différentes manières, mais je pense que c'est une méthodologie qui est extrêmement puissante et qui nous donne des pistes par rapport à la question que vous posez. En fait, le travail qui relie, c'est une méthodologie en quatre temps. Alors, évidemment, qu'on vit de manière successive à travers toute une série de pratiques et d'exercices. Souvent, d'ailleurs, ça se vit sur plusieurs jours, mais on peut aussi faire des ateliers courts, hein, deux heures, une demi-journée, juste pour commencer un petit peu à introduire ça. Mais c'est bien de garder ce modèle en tête. La première étape, c'est s'enraciner dans la gratitude. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par tout ce qui va mal. On commence par s'enraciner dans la gratitude qui est, en fait, profondément liée à l'émerveillement. Alors, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais du coup, il y a aussi des pratiques qu'on peut faire à travers des phrases ouvertes, à différentes choses, qui vont nous permettre justement de nous connecter, en fait, à plein de choses pour lesquelles on ressent profondément de gratitude et qui ont à voir avec tout ce que, et parfois tout ce dont nous n'avons pas conscience, mais qui nous sont offertes et données et qui font que nous pouvons vivre. La deuxième étape, c'est honorer sa peine pour le monde. Alors là, on va entrer dans cet espace qui va permettre d'exprimer toutes ces émotions. Et souvent, quand on tombe dans l'abîme, c'est aussi qu'à un moment donné, il n'y a pas eu cet espace pour pouvoir honorer ces émotions et ces sentiments que j'ai évoqué. C'est important qu'il y ait un espace où une personne, voilà, en toute confiance, en sécurité, sans risque de jugement, va pouvoir déposer et exprimer ça. Et c'est complètement OK, et c'est complètement légitime. Et voir après qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour éviter justement de tomber dans l'abîme. Le troisième moment, c'est changer de vision et changer de regard. Alors là, ça vraiment, on va re-questionner notre vision de la création, notre vision de l'être humain, notre vision du temps, de l'histoire de la planète, etc., etc. Et le dernier moment, c'est aller de l'avant, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je peux faire pour pouvoir contribuer à cette grande transition. Mais en fait, on fait tout un travail pour nous connecter en profondeur à ce qui est vivant et vibrant en nous et pas à du « il faut ». Parce que c'est vrai que parfois aussi, le « il faut » peut être décourageant. Donc, on peut garder en tête un petit peu ce processus. Et puis, je dirais, dans un groupe ou dans un, voilà, ça peut être une paroisse, ça peut être église verte, ça peut être d'autres personnes, eh bien, en fait, mais on va pas, voilà, il va y avoir toutes ces dimensions et qu'on va essayer de mobiliser de différentes manières. Mais en fait, pour ça, il y a des pratiques et il y a des exercices. Et puis, je dirais que aller faire des petites pratiques de connexion profonde, il ne s'agit pas uniquement de se promener en pensant à autre chose, mais des pratiques de connexion profonde dans une forêt ou dans un lieu de vivant peuvent être extrêmement riches d'enseignements pour nourrir ce chemin de crête.
Merci. Cette question pour Michel Massime et Juliette en même temps. On revient dans les histoires avec un grand H, le petit H, etc. Y a-t-il une méthode pour écrire notre récit chez Église Verte?
Alors on a différentes. De nouveau, là, il y a. Alors là, je vous renvoie et je pourrais peut-être vous envoyer un lien qui pourrait être partagé. Mais il y a aussi toute une série de techniques pour faire en fait créer collectivement des récits de futurs désirables, c'est-à-dire un petit peu de là où on a envie d'aller, et qui sont en particulier, ça peut être des formes d'ateliers d'écriture. Et alors pour Église Verte, je pense que ça serait assez facile à faire. Je pourrais vous envoyer 2-3 liens où il y a des méthodologies qui sont proposées. Il y a même des personnes qu'on trouve même en France pour pouvoir animer ce genre d'atelier, voilà, de création d'histoire, si vous voulez. Alors, on peut, et là pour Église Verte, ben, en même temps, c'est très bien parce que vous pouvez avoir d'emblée des éléments de scénario à partir desquels vous allez inviter des personnes par petits groupes à créer une histoire. Alors, vous vous imaginez, si vous voulez, typiquement, une des questions, c'est, et ça, c'est aussi Rob Hopkins qui a écrit un livre chez Actes Sud qui s'appelle « Et si ?» 3 petits points. Parce que dans le milieu de la transition, on utilise beaucoup ces techniques de « Et si ?» Alors, voilà, vous partez de Église Verte, vous vous dites « Ok, Église Verte va être dans… comment que va être Église Verte dans 15 ans ou 20 ans ?» Il ne faut pas que ça soit un horizon trop lointain. Ou dans 10 ans. Et puis à partir de là, vous faites un travail pour essayer de faire émerger comment on voit Église Verte. Alors par exemple, vous pouvez vous mettre les gens en mouvement, faire ce qu'on appelle une méditation avec une visualisation. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va écrire un texte, et puis vous êtes dans votre paroisse, c'est Église Verte, et puis vous emmenez les gens, après les avoir mis dans un état de méditation, pour pouvoir se promener dans le lieu de la paroisse, ou autour de la paroisse, ou dans le village, ou dans le quartier, et puis vous guidez, et puis vous leur demandez, voilà, ils se sont réveillés, voilà, ils sont rentrés d'une réunion d'Église Verte, ils se sont endormis dans le bus ou dans le train, et puis quand ils se réveillent, ça y est, on est 10 ou 15 ans plus tard. Et puis vous les emmenez en train de se promener. Et qu'est-ce qu'ils voient 10 ou 15 ans plus tard? Église Verte a contribué à la transition, s'est développée, etc. Qu'est-ce qu'ils voient? Voilà, ils entrent dans l'église. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Il y a un culte. À quoi il ressemble ce culte? Et puis, qu'est-ce qu'on mange dans les agapes? Et puis, autour de l'église, est-ce qu'il y a des trucs en permaculture ou pas? Mais vous, c'est pas directif. Vous les amenez, qu'est-ce que vous voyez? Et puis après, les gens vont dessiner ce qu'ils ont vu. Et puis, ils vont commencer à créer une fresque collective de tout ce qu'ils ont vu. Puis à partir de là, on peut faire plein d'animations. Voilà. Donc moi, je pourrais vous donner quelques pistes parce qu'il y a plein d'outils comme ça qui sont tout simples, mais hyper performants pour se mettre en mouvement.
Merci. On va aller encore une. On en a parlé, mais on vient dessus. Quelle articulation entre la grâce et la coopération de l'homme, entre la prière et l'action, avec une petite référence à Marthe et Marie en bas.
Voilà. Ben en fait, on est vraiment au cœur de la synergie de Saint Paul, quoi. C'est-à-dire alors, c'est si vous voulez, là on entre dans la quelque chose qui m'est très cher et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, cette posture de la personne méditante-militante. La personne méditante-militante qui est justement dans cette articulation entre le pôle méditant. Alors le pôle méditant, c'est justement cette dimension de transformation de soi à travers en particulier la prière, la vie spirituelle, et toutes sortes. Voilà. C'est vraiment ce moment-là. Et puis la transformation du monde qui est la dimension d'engagement citoyen, égo-citoyen. Donc moi, j'ai développé cette idée de la personne méditante militante en mettant l'accent sur le trait d'union. Parce que en fait, très souvent, si vous voulez, on vit encore dans une forme de dualité ou de dualité ou de séparation entre les deux. Alors il y a les moments où on est méditant, voilà, quand on va à l'église, quand on fait son temps de prière chez soi, etc., etc., quand on fait de la lecture divina ou je sais pas quoi. Et puis il y a le moment où on est militant, c'est-à-dire quand on s'engage, etc. Or, la clé, c'est le trait d'union. C'est comment je suis un méditant dans mon action et comment je suis, comment en fait mon action n'est pas dissociée du temps. Et en fait, c'est pour ça que en fait le méditant militant, c'est vraiment cette articulation en profondeur. Alors, à un moment donné, il s'agit d'arriver à mettre en boucle les deux. Et puis moi, je dirais qu'à un moment donné, il s'agit peut-être à réussir à vivre ça comme une forme de respiration. L'inspire, qui est ce moment où on descend à l'intérieur de soi. Voilà, on se connecte au cœur profond, voilà, cette rencontre avec le plus grand que soi, avec Dieu, avec l'esprit, et puis ensuite l'expire, qui fait que comment tout ça, comment cette connexion, comment cette communion, comment cette vie intérieure va pouvoir s'incarner dans le monde, dans une action, dans un collectif, dans le concret, dans la matière. Donc vraiment vivre ça comme une forme de respiration. Et pour moi, j'ai mis méditant avant méditant. Ça ne veut pas dire que méditant est plus important que militant, mais c'est que je pense, en tout cas pour moi, c'est toujours un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que c'est d'abord l'inspire pour l'expire. Et c'est dans cet inspire, dans cette connexion que je vais, ben c'est typiquement, pour moi très concrètement, j'ai le temps dédié tous les matins, tous les jours, un temps de prière, un temps de méditation, pour pouvoir justement, voilà, après on y arrive plus ou moins, parce que voilà, vous savez, c'est la vie, hein, on a aussi nos traversées du désert, mais je veux dire, c'est vraiment l'idée d'aller dans cette connexion profonde pour aller y chercher ce qui va me donner une orientation pour ma journée, ce qui va me donner une inspiration, ce qui va me donner un souffle, ce qui va me donner un sens. Voilà, donc c'est ce mouvement de l'inspire vers l'expire, et puis après, ben, c'est vrai que dans la tradition orthodoxe, moi c'est un peu mon chemin spirituel, c'est ce qu'on appelle la prière du cœur ou prière de Jésus, qui est en fait, mais voilà, qu'on retrouve dans différentes formes de raisons, qui est en fait, c'est à un moment donné, après des années de pratique, ben c'est finalement d'avoir cette prière quelque part qui est un peu toujours présente en vous et à laquelle vous pouvez toujours vous reconnecter dans tous les moments de votre journée pour pouvoir garder, si vous voulez, ce lien. Et tout ça, ça va se traduire par des attitudes intérieures, la personne méditante, voilà, en termes de coopération avec les autres, en termes de préférer la fécondité à l'efficacité, préférer voilà, le détachement par rapport au fruit de l'action. Il y a toute une série d'éléments qui sont des postures intérieures qui sont celles de la personne méditante. Et je vais terminer sur un point essentiel, c'est ce que j'appelle, enfin reprenant ça de là, c'est préférer le non-agir à l'agir. Et là, on est, à mon avis, au cœur de cette question qui a été posée. Alors, ça, c'est le wu-wei. C'est une notion taoïste qui est le wu-wei qui est en fait qui se traduit par agir, non agir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais ça veut dire que quand j'agis, quand je m'engage, qui est-ce ou qu'est-ce qui est ou qui est-ce qui est aux commandes quand j'agis? Est-ce que quand j'agis, ce qui est aux commandes, c'est l'ego? Avec voilà le fait qu'il sait, qu'il veut, sa soif de pouvoir, de domination, d'imposer sa volonté, etc., etc., qui sont d'ailleurs des postures pas très coopératives, ou est-ce que c'est une autre force, une autre puissance, une autre énergie qui peut agir en moi parce que je lui ai donné de l'espace. Et cette action, cet agir, ben, ça peut être celle de l'Esprit Saint, si on est chrétien, ça peut être l'action, voilà, hein, c'est Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, quelle place je laisse au Christ pour vivre en moi, ou ça peut être aussi simplement la force, cette force du vivant dont j'ai parlé, cette histoire de la terre avec sa longue histoire et cette histoire de fécondité, cette histoire de vie, etc., est absolument extraordinaire. Laisser un espace pour que ça puisse traverser, et c'est cette énergie-là, cette force-là qui est aux commandes, et qui est une force qui va justement nourrir la coopération, et qui est une énergie qui n'est pas seulement renouvelable, mais qui est profondément inépuisable. Et c'est au fond la phrase de Maître Eckhart, et je vais m'arrêter avec ça, quand il dit, à un moment donné, dans un de ses textes, Maître Eckhart dit « Va dans ton propre fond », c'est-à-dire en fait l'espace du cœur. Et là, agit, c'est-à-dire à partir de là, agit. Il a agi parce que, à ce moment-là, ton action, ce que tu feras, vivra, c'est-à-dire sera vivant parce que relié. C'est le choix de la vie par rapport à la mort. La vie, dont le choisit la vie, c'est la vie avec un grand V. C'est pas juste la vie biologique, bios. C'est la vie zoé, zoen. C'est cette vie qui est reliée. Cette vie qui est nourrie de relations d'amour, de communion avec les autres humains et avec le divin, avec Dieu, avec le Christ, avec l'Esprit. Voilà.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, alors, ça a été un peu dense, hein. On n'a pas tout suivi, hein, normalement. Vous avez décroché un moment ou un autre. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que la conférence a été enregistrée et avec les retranscrites. Vous avez peut-être vu le petit voyant qui était en haut, là-haut. Et donc, pour ceux qui s'étaient inscrits, vous pourrez y avoir accès parce qu'il va falloir y revenir. Merci encore. Et merci encore. Je ne sais pas quoi dire.
Merci à vous. Merci de votre attention. Je suis conscient que c'était dense. J'espère que surtout que c'était clair. Et puis voilà. Et puis, de nouveau, faites votre miel. Il y a des choses qui vous ont parlé, des autres pas parlé. Et puis voilà. Ou il y a des choses qui vous ont pas parlé aujourd'hui, mais qui vous parleront peut-être plus tard. Voilà. En tout cas, bonne journée, fructueuse, féconde. Merci de l'invitation. Et puis voilà, on reste en lien.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Donc, pause. Très important pour nos journées, les pauses.